Tapis rouge et Starlet, ouverture mercredi dernier de la 66e édition du Festival de Cannes. 20 films sont en compétition pour obtenir la Palme d'Or. Art, glamour, mais aussi business. Comment se porte l'industrie du cinéma? A-t-elle souffert de la crise? Stéphane Charrière est critique de cinéma, enseignant à l'école Arfis à Lyon.
Lorsque les gens sont moins enclins à dépenser de l'argent pour aller au cinéma, eh bien, on n'est pas sûr de le rentabiliser sur les entrées salles. On n'est pas sûr non plus de le rentabiliser sur les produits dérivés et les diffusions vidéo ultérieures. Donc, inévitablement, ça a des conséquences sur les projets que l'on va plébisciter lorsqu'on est producteur. Ça permet à des cinéastes qui avaient des films relativement fragiles de travailler un peu plus sur la question et pourquoi pas de revenir un peu plus tard avec ce même projet et de le réaliser. Par contre, ça a un inconvénient, c'est que l'actualité cinématographique se focalise autour du blockbuster en général. Et hélas, le blockbuster n'est pas l'exhaustivité cinématographique par excellence.
Signe de maturité face à la crise économique, cette semaine, syndicats, patronats et politiques tentent ensemble de trouver des solutions pour accompagner les travailleurs. En France, le Parlement a adopté un accord interprofessionnel instaurant davantage de flexibilité. Une entreprise pourra baisser les salaires si elle maintient le nombre d'emplois. La gauche de la gauche y voit une régression, mais pas Jérôme Vignon, président des Semaines Sociales de France.
La question est de s'entendre sur les bases de la sécurité professionnelle. Est-ce qu'on améliore cette sécurité en protégeant à toute condition la stabilité dans une position d'emploi donnée, ou bien est-ce que dans un monde où on constate, c'est un constat, c'est même pas une prévision, les salariés changent de 5 à 6 fois pour le secteur privé d'emploi ou d'entreprise au long de leur vie, est-ce que pour les protéger, le mieux n'est pas d'accompagner ces changements, de les rendre possibles? Pour ma part, je pense qu'on a accru la protection de long terme des salariés en favorisant l'accompagnement dans des changements qui sont difficilement évitables.
Autre succès du genre, mais cette fois dans la première puissance économique de l'Union. En Allemagne, les métallurgistes obtiennent sans recourir à la grève 3,4% de hausse de salaire. Henri Ménudier est professeur de civilisation allemande à l'université Paris 3.
Du fait que l'économie allemande se porte relativement bien par rapport aux autres économies européennes, facilite bien sûr pour le patronat l'augmentation sur le plan salarial. Ce qui me frappe toujours, c'est de voir que les syndicats allemands savent au fond jusqu'où ils peuvent aller. Ils savent qu'il ne faut pas trop exagérer aussi. Les syndicats allemands ont le sens de la responsabilité. Ils se sentent co-responsables de la gestion de l'entreprise.
26 mois de guerre en Syrie, le Saint-Siège demande au Conseil de sécurité de l'ONU de trouver une solution pour mettre fin au bain de sang. 94 000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit. Cette semaine, la Russie a rejeté une demande israélienne. Les Russes livreront comme prévu des missiles S-300 au régime de Damas. Sueur froide pour l'État hébreu, mais pourquoi donc? Patrice Bouvray, responsable à Lyon de l'Observatoire des armements.
La communauté internationale décidait d'intervenir par rapport à la Syrie, elle aurait, je pense, compte tenu des moyens dont disposent les Américains, relativement peu de difficultés pour neutraliser ces missiles S-300. Les États-Unis possèdent des capacités technologiques beaucoup plus performantes à l'heure actuelle que celles que possède la Russie à l'heure actuelle. C'est plus lié à l'accumulation d'armes dans cette région et surtout à sa dissémination, et notamment la dissémination de ces missiles vis-à-vis du Hezbollah. Il faut nommer les choses aussi telles qu'elles sont.
Au Nigeria, le gouvernement vient d'envoyer des milliers de soldats pour reprendre des territoires contrôlés au nord par Boko Haram. La secte islamiste menace, tue les chrétiens sur place, mais le président agirait pour des motifs personnels et politiques. Marc-Antoine Pérouse de Monclos est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement.
Il est clair que Goodluck Jonathan veut se représenter pour un deuxième mandat aux élections de 2015, alors qu'il était entendu qu'il allait céder le pouvoir à un musulman du Nord. Et du coup, il y a peut-être le sentiment qu'avec cette inflexion militaire supplémentaire de l'état d'urgence, le gouvernement fédéral essaye de reprendre la situation en main, quitte d'ailleurs à démettre des gouverneurs du Nord musulman qui seraient de l'opposition. C'est aussi la crainte, si vous voulez, que du coup, ils mettent en place un personnel politique qui soit à la botte d'Abuja, la capitale fédérale, et qui du coup permettrait d'organiser la fraude électorale en 2015.
Hasard du calendrier, ce samedi, la loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe a été promulguée en France, alors que la veille, dans le monde, on célébrait la journée mondiale de lutte contre l'homophobie. L'opposition au mariage pour tous portée en France en grande majorité par des catholiques est parfois perçue, caricaturée comme l'expression d'une homophobie déclarée. Or, l'Église n'est pas homophobe. Monseigneur Jean-Luc Brunin, évêque du Havre et président du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France.
Il y a absolument aucune condamnation des personnes homosexuelles. Ce que l'Église condamne, c'est les actes homosexuels. Elle invite sans cesse à un respect des personnes. Et vis-à-vis des personnes, l'Église s'adresse à elles en les invitant à découvrir une relation qui soit marquée par la chasteté. Alors c'est vrai qu'il y a eu des écarts. L'absence de débat a radicalisé des positions et c'est vrai qu'à la faveur de cette radicalisation, on a eu des propos nettement homophobes que l'Église ne peut que condamner.